Salut les motards et bienvenue à cette émission des Guidons de l'Info, première émission de l'année. Sur Radio Mon Pays, cette radio qui nous accueille dans ce local de la CGT, il faut le rappeler quand même, parce que voilà, quand on arrive c'est marqué sur le sol, c'est marqué sur les murs, la Bourse du Travail, le local de la CGT. Guidons de l'Info, tous les guidons, hein, ici il n'y a pas de sectarisme, hein, ça va du guidon bracelet au guidon corne de vache, de toute façon, du moment qu'on est déjanté, qu'on est motard, c'est ça qui compte. Première émission où je suis tout seul. Je sais pas, mes petits camarades ont dû tomber en panne ou oublier de se lever après tout, parce qu'on est quand même, que le 3 janvier, c'est toujours un petit peu difficile. Les lendemains de Nouvel An, on sait ce que c'est, hein, enfin en tout cas moi je sais ce que c'est. Alors j'ai commencé par un billet d'humeur en fait, c'est un billet de... c'est pas un truc facile. C'est pas un billet de bonne humeur ni de mauvaise humeur, hein, parce qu'il n'y a ni colère ni venin. C'est juste un billet de lassitude, hein, un billet doux en fait pour un pote. En fait, le soir de Noël, alors que certains croisaient un vieux monsieur habillé en rouge, hein, version rouge et blanc, vous savez, version Coca-Cola de notre besoin moderne de surconsommation de masse, ben, petit Thierry, lui, il a croisé une dame en noir, ouais, sur la route de Plaisance. Personne ne sait vraiment ce qu'ils se sont dit, et puis, puis on s'en fout, hein, ça nous regarde pas. Toujours est-il que Thierry a fini sa nuit à Rangueil, une longue nuit sans conscience jusqu'à dimanche soir, où là, ben, il a décidé de tirer la révérence. En même temps que l'année, en fait. Sans bruit, sans histoire. Comme un cri, mais silencieux. Et nous, ben, toute la bande, hein, on reste là. On est sans voix. Oui, c'est pas très pratique à la radio d'être sans voix. Mais on est sans voix, on reste au bord de la route. Et puis, cette route, on l'aime parce que c'est elle qui nous fait vibrer, qui nous fait rire. Parfois souffrir et des fois pleurer. Cette route qui nous dévore les uns après les autres, et pourtant, ben voilà, il y en a qui choisissent de rester là, en fait, debout. Thierry avait choisi, on est plein à l'avoir choisi. C'est comme ça, on reste debout pour se souvenir de ceux qui sont justement tombés, en fait. Enfin, justement, c'est pas le mot, c'est plutôt injustement tombé. Toutes ces têtes de mort qui illustrent nos vêtements, nos motos, nos instruments de musique, parfois, ou même nos peaux, hein, ben... elles sont là pour montrer qu'on n'est pas des idiots, on n'est pas des masos, on est des adultes, on est conscients. Et on est responsable, quoi qu'en pensent certains moutons frileux, bien cachés à l'abri derrière leur acier d'automobile teuse. Mais voilà, ces têtes de mort, c'est notre façon à nous de dire merde à ce monde, en fait, complètement paranoïaque, où on doit toujours trembler de l'ombre du voisin, du bruit du voisin, de tout. Donc petit Thierry, je suis sûr que t'es en train de payer une binouse à cette dame en noir. Hein. C'est vrai que sa foi est aiguisée comme un discours de politicien. Remets-lui donc une tournée de notre part et une bonne main au panier en nous attendant. Parce que tu vas manquer un peu à cette année. Tu vas manquer à nous tous, quoi. Simplement. Le noir de la moto... le rouge de tes idéaux. Noir et rouge, c'est la couleur de la révolution qu'on aurait dû faire tous ensemble. Ciao camarades, bonne route.
Sous le plafond de ce bar, une vie trop bien rangée apprivoise chaque soir l'imminence redoutée d'une chute obligatoire. J'ai cette vie à l'endroit qui se dresse sans appli. Dans les faux pas de mes
c'est vrai qu'on est mal assis là. Qu'on est mal assis là. Qu'on est mal assis là. Qu'on est mal assis. Qu'on est mal assis là. Qu'on est mal assis là. Qu'on est mal assis là. Qu'on est mal assis. Repasser dans le désert, déserrant cette autre fois, redevenir solitaire comme un oiseau vu d'en bas. Quand j'aurai fait le chemin à rebours de mes déboires, je pourrai penser enfin au projet de me rasseoir. C'est vrai qu'on est mal assis là, qu'on est mal assis là, qu'on est mal assis là, qu'on est mal assis, qu'on est mal assis là, qu'on est mal assis là, qu'on est mal assis là, qu'on est mal assis.
C'était la petite Pauline Croze, on est mal assis là, version comme si on roulait sur un chopper ou sur une hyper sportive italienne. Tous ceux qui pratiquent se verront tout de suite pourquoi je dis ça, parce que c'est quand même un truc qui laisse des traces, surtout en général aux vertèbres. Mais bon, ça c'est une version personnelle de l'histoire. Bon alors, en cette début d'année, il se passe pas grand chose, hein, comme d'habitude, chez les motards, déjà parce qu'on est dans le sud et que la moitié des motards ont rangé la moto sous une bâche dans le fond du garage, en attendant que les beaux jours reviennent. Enfin, surtout ceux qui achètent le dernier modèle de l'année et qui en changent tous les ans, parce que ce n'est plus le modèle de l'année, mais celui de l'année d'avant. Ils se reconnaîtront. Et y a quand même un événement sportif qu'on ne peut pas louper, c'est le Paris-Dakar. Alors qu'on soit passionné ou non de rallye raid, hein, et qu'on soit pour ou contre idéologiquement, parce que c'est vrai que c'est quand même... Bon, il y a plein de pour et plein de contre. Je n'en discuterai pas avec mes camarades aujourd'hui, vu que je suis toujours tout seul et qu'ils ne sont toujours pas arrivés. Ça leur apprendra à rouler en japonaise. Quand même, c'est un événement qui est intéressant à suivre. Je vous dis, même si on n'est pas passionné, parce que c'est quand même des bonhommes courageux. Il faut aller se taper 8696 km, hein, dont il y a plus de 5000 bornes qui sont sur ces 8000 km, qui sont des bornes chronométrées. Donc 5000 km chronométrés, 14 étapes. Alors, c'est pareil, hein, 8600 bornes en 14 étapes. Faut quand même être motivé. Tout ça pour traverser le Portugal, bon, la Méditerranée en bateau, hein, évidemment, parce qu'ils n'ont pas encore fait les motos qui flottent. Quoique, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, et enfin, on finit au Sénégal. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les étapes et tout, mais dans ce petit périple, donc, qui commence le 6 janvier de Lisbonne, et qui finit le 21 janvier à Dakar, ils ont une journée de repos. Alors, une journée de repos, je pense qu'ils seront contents de la retrouver. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ben là, il y a encore une grande différence entre les professionnels et puis les privés. Parce que les privés, ils vont se retrouver, la journée de repos, ça va être la journée du bricolage. Et puis les pros, ben, ce sera une vraie journée repos avec massage et tout et tout. Mais bon, ça c'est comme ça. Hein, c'est comme ça que devient la compétition maintenant. On peut rien changer. Sinon, quoi de neuf qui arrive? Ben, il y a plein de petites choses qui arrivent, plein de petites motos. Un truc extraordinaire, c'est la petite KTM qui va bientôt être disponible, hein, chez les concessionnaires, la RC8, pardon. Petite moto fort sympathique, hein. Alors, bon, à la vraie, c'est une vraie catoche, il n'y a pas à tortiller, c'est-à-dire qu'on la reconnaît du premier coup d'œil, on voit que c'est une catoche. Et puis, il y a plein de petites idées comme ça qui viennent du Grand Prix. Parce que quand même, ça fait 2-3 ans que KTM aligne les 125 au départ des Grands Prix, et ça leur a donné plein d'idées. Et puis comme les Autrichiens, ils font jamais rien comme tout le monde, hein, cette sportive, qui est la première en fait de chez KTM, ne sort pas de la règle en fait. Hein. Elle offre un joli V-twin, hein, c'est le même que celui qui équipe l'Adventure et la grosse Duke, mais légèrement modifié pour sortir 130 petits canassons pour les vénards qui ont le droit à une version débridée. 130 chevaux, c'est tout à fait honnête, hein, quand même, pour une moto de 990 cm3. On retrouve tout ce qu'on trouve d'habitude sur ces motos, c'est-à-dire une fourche inversée, des étriers radio, mais il y a quand même plein de petits points où la KTM sort du lot. Déjà le carénage carrément Zarbi, hein, ça on peut le dire, c'est un carénage Zarbi. Je ne sais pas s'ils ont déposé le brevet du truc bizarre, mais là ils sont assez forts. Il est à la fois agressif et en même temps favorisant, d'après les ingénieurs de chez Katoche, l'aérodynamique. Ça vaut le coup d'œil, quoi. C'est quand même une très belle bête. Moi j'aime beaucoup. Le réservoir aux formes origamiques, comme on dit version KTM, ce qui fait office de selle en même temps, ça c'est assez original, on n'en voit pas trop. En fait, l'idée, c'est de recentrer les masses, hein. C'est que le pilote soit assis très très en avant. Et pour recentrer les masses, ils ont aussi fait sortir l'échappement comme sur les Bioules, c'est-à-dire juste en dessous. Ça donne un ensemble en fait qui est très épuré. L'arrière est assez aérien, en fait, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est accroché derrière. C'est très joli. Le cadre, c'est du cadre treillis, hein, version treillis de chez Treillis, en bonne ferraille, comme ça nous le faire les Ducat. Et c'est vraiment le petit bicylindre qui est dedans est vraiment tout taillé à la serpe. Il est visible, ce qui est quand même assez rare parce que d'habitude les carénages sont refermés derrière, ce qui fait qu'on voit pas du tout ce qui se passe. Il faut un ouvre-boîte pour aller jeter un œil. Là ça va, le moteur reste visible malgré le carénage intégral. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le bras oscillant, c'est carrément une beauté. C'est une vraie beauté, hein. C'est un bras oscillant échappé d'une moto de Grand Prix, version banane, un peu comme on trouve sur les Aprilia RS250. Et la bestiole est estimée aux alentours de 175 kg, ce qui est tout à fait bien, hein. 130 chevaux, 175 kg pour un twin. On commence à être dans la bestiole qui ne doit pas amuser le terrain. Le bouilleur chez KTM, c'est le plus... Dans les 1000, c'est le plus léger qui existe. Il n'y en a pas eu qui ont été faits. Il fait 56 kg. 56 kilos pour un 1000, c'est 12 kilos de moins qu'un a pris RSV quand même. Hein. Donc, bon. Et l'RSV était jusqu'à présent le moteur le plus léger en bicylindre 1000. Donc c'est assez extraordinaire d'ailleurs, à mon avis. Aprilia RSV et RC8, ça va se tirer un peu la bourre. Hein. Disons que c'est des marques un peu satellites, originales. C'est pas les quatre grands fabricants japonais. Donc, bon, déjà, ça fait marcher un peu l'imaginaire et tout. Bon, il y en a des Autrichiens, les autres qui sont italiens. Mais après tout, on reste quand même du même côté. Hein. Ça reste très proche. Donc tout ça, bon, ben... On attend un peu, c'est prévu vers février-mars 2007 pour pouvoir empoigner les bracelets de cette orange mécanique, si j'ose dire, puisqu'elle est orange, effectivement. Si vous voulez voir ça, hein, y a un très très beau site qui a été mis en place par KTM, spécialement pour ce modèle. C'est vraiment un truc sympa, c'est sur www.ktm-rc8.net. ktm-rc8.net. Voilà. Et là, on va se faire une petite version choisie par Michel, tout à fait sympathique de l'international. Voilà, c'était les Sgabounistes qui nous faisaient une version gitane flamenco de l'international. Et vous êtes revenus, parce que vous n'étiez pas partis, j'en suis sûr, dans les guidons de l'info, où je suis toujours tout seul, abandonné par mes camarades, décidément, je vous le dis. Ici, il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bref, je vais vous parler maintenant d'un modèle de moto. Alors, je vais pas vous parler du dernier modèle qui est sorti de chez Yamaha, ou le dernier modèle, parce qu'il y a des tas de journaux qui le font très mal, mais qui le font. puisque de toute façon ils disent tous la même chose, et puis ils disent toujours que c'est le meilleur modèle au moment où ça sort, et puis 6 mois après, quand le nouveau modèle sort, ils disent ah, il est quand même beaucoup mieux que celui d'avant. À croire que la moto évolue constamment, toujours dans le bon sens, ça j'en suis pas certain, mais bon, c'est mon avis tout à fait personnel. Mais je vais vous parler d'une moto pour débuter. C'est vrai, on vient d'avoir le permis. On n'a pas trop de sous à mettre dans la moto. On a envie de rouler un peu original. On n'a pas beaucoup de sous à mettre dans l'assurance, parce que quand même, il faut se rappeler de ce léger détail, c'est que souvent, on paye autant d'assurance. En tout cas, en 2 ans, on a largement racheté une moto avec ce qu'on a mis dans l'assurance. Quand on est jeune conducteur, surtout, c'est assez terrible. Une moto fiable, donc qui peut passer les années. Je vous ai dit original, qui a du caractère, je vais vous parler de la petite BM série 5. Alors une BMW série 5, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? C'est une voiture? Mais non, c'est pas une voiture, une série 5. Parce que je rappelle comme ça vite fait que BMW, s'ils existent encore aujourd'hui, c'est pas grâce à l'automobile. C'est vraiment la moto. Ils ont commencé en fabriquant des motos. L'automobile est venu se greffer après. Pendant les années, on va dire, sombres, pour ne pas dire noires, de l'Allemagne, ils fabriquaient beaucoup pour l'armée. Ils préparaient en fait la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ils ont équipé l'armée d'un paquet de modèles. Enfin, d'un paquet de modèles, surtout du fameux sidecar R75. Le R75 qu'on voit dans tous les bons films de guerre, quand on voit arriver les Allemands, ils sont là-dessus. Donc bien que souvent dans le film ce soit des R12 maquillés en R75, mais là on commence à rentrer dans des détails dont tout le monde se fout, donc on n'en parlera pas. Donc ils équipent l'armée, la guerre, les usines tournent à fond, et puis après-guerre, voilà, les usines allemandes, comment dire, il y a comme un coup de frein. En fait, c'est pas qu'il y a un coup de frein, mais c'est qu'il faut produire, mais pour les autres pays, en dommage de guerre. Donc BMW là prend quand même une bonne claque. Pendant la guerre, la marque était nationalisée. Elle va rester un tout petit peu nationalisée après la guerre, pendant un petit moment, histoire de finir les dommages de guerre, de rembourser aux autres pays ces dommages de guerre. Donc elle restera nationalisée. Là, elle se lancera dans l'automobile. Elle commencera à produire en grosse série l'automobile. Mais ça marche pas très fort en automobile parce que c'est des voitures chères. Ça marche pas très fort non plus au niveau de la moto parce que c'est pareil, leurs tarifs sont assez prohibitifs. Mais ce qui va sauver BMW, c'est en fait toutes les administrations. Parce que à cause de ces dommages de guerre, les administrations vont préférer bien souvent travailler avec BMW qui leur fera des tarifs préférentiels. Et puis il y a la fiabilité quand même, ces motos sont des motos fiables, c'est des motos simples, c'est des moteurs très très automobiles, c'est-à-dire qu'on peut les refaire et puis les refaire encore et les refaire encore, et il y a vraiment aucun souci, c'est vraiment du type automobile. Donc BMW va sortir de la guerre, arriver dans les années 50, les traverser un petit peu difficilement, et puis les années 60... Avec tous ces contrats passés avec les administrations européennes, BMW va commencer à remonter la pente et tirer en fait la marque en avant avec la moto. Et ensuite, c'est dans les années seulement fin 70, début 80 que ça va basculer dans l'autre sens et que c'est l'automobile qui sauvera la moto, lui permettant de traverser les 20 ans un petit peu difficiles qui l'amèneront dans les années 2000, où là à nouveau la moto fait une percée vraiment importante. Et en plus les deux branches qui étaient vraiment unies vont se retrouver dans les années 80 séparées avec des directions un petit peu différentes. Ça reste la même marque, mais chacune avec des objectifs différents. Et donc en 69, au salon de 69, est présentée la première série 5. Pour remplacer la fameuse série 2, vous savez, la vache élastique, là, cette moto avec une fourche avant à balancier, qui est vraiment très caractéristique des anciennes BM. Hein, quand les gens pensent aux vieilles BM, ils voient cette moto noire avec des liserés blancs. Et la série 5 arrive donc en 69 pour remplacer cette moto qui commence quand même à être un petit peu vieillotte, hein, parce que la série 2, mine de rien, traîne ses quasiment 15 ans de production. Et donc, il fallait mettre un coup neuf. Et puis, en plus, 69, c'est l'année où sort la CB750. CB750 qui quand même, amène vachement de progrès dans la moto avec son démarreur électrique. Il n'y a plus de fuite en dessous. Donc, déjà, c'est louche. C'est qu'il ne doit pas y avoir d'huile. Des freins à disque qui freinent pas, mais bon, il y a quand même des freins à disque. Et donc, BM décide donc de sortir le série 5. 69, en réalité, il sera au catalogue français que vraiment en 70. On pourra le commander qu'en 1970 chez le concessionnaire. Et il arrive avec trois cylindrés, un 500, un 600 et un 750. On trouvera beaucoup, beaucoup de 600 dans les administrations. C'est vraiment le gros modèle que l'administration, en France en tout cas, va choisir parce que c'est un modèle économique. Donc toujours très fiable. Donc bicylindre à plat, hein, typique de chez BMW. Là, c'est deux espèces de mamelons tombant de chaque côté. Et le démarreur électrique sur la 600 et sur la 750, alors que sur le 500 série 5, le démarreur électrique était une option parce qu'il y avait encore des kicks sur les boîtes de vitesse à cette époque-là, avec une particularité du kick BMW, c'est-à-dire qu'on ne kick pas quand on est sur la moto. Alors, me demandez pas pourquoi les ingénieurs allemands ont eu cette idée farfelue de ne pas pouvoir kicker quand on est sur la moto, parce qu'ils ont dû se dire, ben, on met la moto sur la béquille centrale, et puis on se met sur le côté droit de la moto, on monte sur le kick, et on descend le kick. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quand on cale au feu rouge, ça fait quand même beaucoup d'histoire. Mais c'est pas grave. C'est quand même assez caractéristique. Déjà, le série 2 démarrait comme ça, et avant lui le R51, et avant lui le R17, le R21, non, le R21 c'est autre chose, c'est une voiture, le R12, le R16, tous les BMW ont toujours en fait démarré avec le kick latéral, sauf les monocylindres, qui eux avaient le kick en fait qui fonctionnait dans le sens de la marche, si j'ose dire. Donc on pouvait kicker assis sur la selle. Mais tous les autres modèles, les bicylindres, aussi à cause de cette histoire que vous comprenez bien que le moteur, quand il se retrouve face à la route, il est un peu dans le mauvais sens, si j'ose dire, hein. C'est une façon de parler, puisqu'évidemment il est dans le bon sens, c'est les Ducati et les autres qui ont mis les cylindres dans le mauvais sens. Ça peut pas être BMW ou Guzzi, voyons, voyons. Donc, comme il se retrouve dans ce sens-là, ça fait un renvoi supplémentaire sur la boîte de vitesse qui était déjà proche d'un modèle, d'un croisement, vous voyez, entre de la bonne ferraille à ferrer les ânes et puis aussi une enclume. Cette espèce de croisement étrange en 5 vitesses quand même pour 1969, ce qui est tout à fait raisonnable et puis qui correspond aux critères définis par nos amis de chez Honda avec leur CB 750, alors que les Anglaises étaient encore en 4 vitesses et ont mis un petit peu de temps à se mettre à la 5, mais de toute façon c'était la fin de l'Empire britannique, il était sur le déclin, on peut le dire. Que ça soit pour ses colonies ou que ça soit pour ses motos, c'était la fin des haricots. Donc, nos amis allemands sortent cette petite machine avec un réservoir et une autonomie invraisemblables, puisque le réservoir était de 24 litres, 22 pour les administrations, parce que le réservoir avait un petit emplacement pour pouvoir mettre le micro. Quand je vous dis micro, c'était encore un micro, un vrai micro, quoi, comme celui dans lequel je suis en train de vous parler actuellement. Vous voyez une grosse boule avec un fil. Ça rentrait dans le réservoir et ça filait vers la radio qui était en fait dans les sacoches latérales à l'arrière. Donc, cette moto, avec son réservoir de 24 litres, a une autonomie qui frise la démence, hein, autour de 300-350 km d'autonomie. Donc, rien à dire. Le démarreur électrique qui marche quand même, il faut le savoir, que les 15 premiers jours où on a la moto ou que la batterie est neuve, puisque l'alternateur ne charge pas assez fort. C'est des moteurs qui prennent pas de tour. Hein. Un BM, la zone rouge, si je me souviens bien, parce que là, c'est un peu disons, à 500 tours près, je dirais que la zone rouge est à 6000 tours. Mais le couple de la BM est à 4000, entre 3000, 5 et 4000. C'est là que le moteur ronronne, si j'ose dire. Donc, à 4000, on charge à la moitié de la charge, donc on ne charge pas. En tout cas, pas suffisamment pour entraîner un démarreur de type automobile, justement, qui lui aussi est croisé avec une enclume et qui est surtout très très gourmand en courant. Il faudra attendre 82 pour que BMW fasse quelque chose et abandonne le vieux Bosch des Opel, le vieux Bosch qui était monté sur les Opel pour du Valeo équipementier français, et oui, sur la BM. Et beaucoup moins gourmand, ce qui lui permettait d'avoir surtout une batterie un peu plus petite. Et en plus, l'alternateur a fait des progrès tout le temps de l'évolution, série 6, série 7. Et ensuite, ce qu'on a appelé les RT1, là, les monolevers, ceux qui avaient le monobras à l'arrière, avaient des alternateurs beaucoup plus puissants. Mais ce qui est extraordinaire chez BMW, c'est que tout ça, c'est interchangeable. Vous pouvez très bien avoir une série 5 et lui monter un alternateur de RT1. Il faut l'usiner un petit peu pour qu'il veuille bien rentrer dans son petit logement. Mais ça, tout bon tourneur vous fait ça en rigolant. Donc, BM, on arrive, on a un clou pour démarrer. Alors un clou, c'est comme une clé, sauf que c'est un clou. C'est difficile à définir, c'est un objet en bakélite, équipé d'un petit bitonneau et qui dépasse. Si vous avez une MZ, vous connaissez, puisque c'était à peu près le même. Il faut dire que MZ, je vous rappelle, était de l'autre côté du mur. Ça vient du même pays, mais de l'autre côté du mur. Et en fait, ça vient de Tchécoslovaquie en réalité, la MZ, mais c'était fabriqué en fait partout, dans tous les pays anciens communistes, de l'ancien bloc communiste, on fabriquait de la MZ, ou de la Jawa, ou de la CZ, ça dépendait un peu le pays, mais c'était tout le temps un peu la même mécanique. Mais du côté, du bon côté, je mets des guillemets à bon côté du mur, là où BM était, c'est-à-dire à Munich, hein, puisque BMW c'est Bayerische Motorwerk. Bayerische pour Bayerische, je ne sais plus. Motorwerk, c'est des fabricants de moteurs. Bayerische pour Berlin. Pour Bayern, je ne sais plus. Et ce clou, on l'enfonce, ce qui allume un très très joli compteur avec ses voyants à l'intérieur du bloc compteur. Tout ça incrusté dans le phare, très très joli, le petit contour, le petit compteur, tout dans le phare. Et on démarre. Donc si on a de la chance et que la batterie est neuve, au démarreur. Si on a un peu moins de chance et que la batterie est à quelques jours, au kick. Mais ça démarre tout seul au kick. Un BM, ça comprime que sur un cylindre à chaque tour. Hein. Donc en fait, il n'y a aucun souci. Si elle est bien réglée, ça ne pose aucun problème. Et là, on a un merveilleux bruit de chevaux. Puisque bon, faut pas rêver, hein, c'est à peu près la même conception mécanique, le son est à peu près identique. La boîte, alors la boîte, disons qu'il faut avoir des bonnes chaussures. Si on a des bonnes chaussures, on n'a aucun problème avec les boîtes DBM. Et puis aussi une certaine pratique de la décomposition du mouvement. Décomposer, quand on dit qu'il faut décomposer, là il faut vraiment décomposer. C'est-à-dire qu'on débraye, on coupe les gaz, on passe le rapport. Si ça veut pas s'enclencher, on met un petit coup de gaz en restant débrayé, histoire que le moteur prenne au moins 500 tours. Là, on sent un énorme clonk, qu'on se demande si on n'est pas en train de perdre le bras oscillant ou la roue. Mais c'est normal, c'est la vitesse qui s'enclenche. On relâche l'embrayage le plus délicatement possible, c'est-à-dire qu'il faut comme il faut deux mains pour l'embrayage, bon bah on fait ce qu'on peut, et on se retrouve donc sur le bon rapport. La première, dans ce cas-là, avec une grande chance de tomber sur le point mort quand on veut vouloir passer en seconde, parce que de toute façon, on n'est pas habitué à ces boîtes qu'il faut tellement décomposer qu'il n'y a pas le mode d'emploi qui est fourni avec, ce qui est fort dommage. Bon, on se retrouve donc en seconde, en troisième, en quatrième, avec, vous vous doutez bien, une accélération digne d'une brouette. Et tout de suite, en cinquième, on atteint des vitesses. Alors là, faramineuses. Je vous dis des bêtises en plus, parce qu'on se retrouve en quatrième. On se retrouve en quatrième parce qu'on est en 70. Si on était en 73... Je vous dirais, ah oui, parce qu'en 73 sort en fait la boîte qui va être la prémisse de ce qu'on retrouvera plus tard sur le série 6, qui sort lui en 73 justement. La dernière année de production de la série 5, il y a plein de petites modifications qui seront faites, qui seront les prémices de la série d'après. Ça chez BM, ils aiment beaucoup. En fait, la boîte 5 vitesse à kick, le bras oscillant rallongé, parce que quand même un série 5 de 70, ça saucissonne, mais ça saucissonne vraiment, qu'on se demande si c'est pas une moto basque ou corse. Le gros alternateur, justement, qui arrive avec la dernière année, et surtout une batterie tellement grosse qu'on pourrait démarrer à peu près n'importe quelle voiture diesel moderne avec. Ça, c'est pour la dernière année. Mais moi, j'étais en train de vous dire qu'on était en train de rouler sur une moto de 1970. Donc on passe donc notre quatrième, et là, on atteint des vitesses folles de l'ordre de 110-120 km/h. Et magie, on attrape les freins, parce qu'à bout d'un moment, il faut s'arrêter. Vous savez bien, il y a des stops, il y a des feux, il y a tout le temps quelque chose qui nous oblige à nous arrêter, ou ne serait-ce que pour mettre de l'essence. Et là, on voit la différence avec le CB750. Le CB750 qui a un superbe disque qui ne freine pas. Le série 5 a un superbe tambour qui ne freine pas quand il fait sec, et pile quand il pleut. Donc, on a toujours une surprise. C'est ça qui est magique, en fait, avec les motos anciennes. C'est qu'on a toujours des surprises. Moi, franchement, j'ai commencé avec cette moto, c'était ma première grosse cylindrée. J'ai commencé avec un MZ, c'était ma première moto, ma vraie moto, celle avec un sidecar, quoi, je veux dire. C'était un MZ250. Mais ma première vraie grosse moto, ça a été un BMW 600 série 5. Je peux vous dire que quand vous avez survécu au BMW 600 série 5, sous la pluie, sous la neige, et que vous avez parcouru près de 100 000 km comme j'ai fait, vous pouvez monter sur à peu près n'importe quoi après, vous allez trouver ça facile. Donc moi, c'est une moto que je conseille aux petits jeunes qui débutent. En plus, un 600 série 5, ça fait quand même 40 chevaux. Donc ça, l'assurance ne va pas vous assassiner. Ça ne vaut pas encore trop de sous, quoi que ça commence. Hein. Ça commence à être des vraies motos de collection. Ça vaut un petit peu de sous, surtout s'il y a des travaux à faire dessus, parce que les pièces BMW, ils les donnent pas. Et pas trop cher d'assurance, pas trop cher à acheter. Excellent pour faire ses premières armes, pour apprendre à freiner, pour apprendre à tourner, pour apprendre tout ce que la moto ne veut pas faire. C'est-à-dire que si vous y arrivez, ben vous y arriverez toujours, normalement. Et en plus, une moto qui décote pas. Vous roulez, vous allez faire 3-4 années avec cette petite moto, le temps de vous faire la main, et puis après, comme ça, vous pourrez vous acheter un 90S, par exemple, qui est quand même la 90S, qui est le 900 sportif de chez BM, qui apparaît en 73, donc une évolution. Et cette petite moto, cette petite 600 série 5 ou 750 série 5 que vous aurez acheté 2 000 €, avec 80 000 km de plus, vous la revendrez toujours 2 000 €. Et ça, c'est quand même magique. Donc voilà, c'était juste un petit conseil comme ça. Si vous débutez, que vous ne savez pas sur quoi vous voulez, que vous voulez rouler sur un truc original, eh ben n'hésitez pas, parce que BMW, c'est une moto faite pour vous. Voilà, et on va écouter un petit morceau choisi par Michel. Jan Tiersen, c'est parti.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la cour. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack et galore dure. Souvent en guerre contre les administrations. Leurs PEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges. Mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart, elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au fond. Paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une coque. Si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, ouais. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Pas si le poli est un mythe et si les dits sont synonymes, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous manque, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent. Elle s'est gérée une entreprise, elle vit à l'heure américaine. KFC, MTV, Bass, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas. Sur le parquet des Spurs, elle. J'ai des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles qui coûtent du rail, arrête pied du zoom. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, elle sait. Elle te veut pas pour modèle, non. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne fait pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, ouais. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaint, fout de la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi elle vit, au moins elle loue, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi c'est pas la leur, celle qui vend extrême, celle qui bannit les jeunes en diable sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos banques, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde Julie Lescaut et regrette de ton égoïsme, qui laisse crever les pauvres et met ses propres pans à l'hospice. Ma France à moi c'est pas la leur qui fête le beau journée, qui prétend cette fête paisible par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre, celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se craque les couilles à table en regardant Laurent Gérard. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors on s'arme la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Merci.
Et on revient dans les guidons de l'info. Oui, oui, c'était bien Yann Tiersen qui était au violon derrière. Les têtes raides et la voix, c'était Diams, Ma France à moi. Ma France à moi, voilà bien un sujet passionnant. Parce que on a tous notre France, hein, on a chacun la sienne en fait. Je crois pas qu'il y ait de règles. Mais effectivement, on a, comme on a chacun la sienne, on n'est pas tout le temps tous d'accord, il semblerait. Et c'est le moment des élections, c'est le moment de justement, où vous avez entendu, la démagogie commence à arriver à plein pot. On sent que ça commence à être chaud, là, les bonnes places sont convoitées. Tout le monde louche sur les mêmes choses. Bon, on a eu les vœux du président, et puis là on voit que le droit au logement est en train de se manifester. Les Don Quichotte sont installés à Toulouse. Les enfants de Don Quichotte ont installé les tentes derrière le monument aux morts, là, vous savez, entre le Grand Rond et le monument aux morts. Et à Paris, il y a ces événements là où un immeuble a été squatté. Mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'un immeuble chauffé pendant 4 ans avec de l'eau chaude peut bien faire vide, quoi. C'est la question, elle est là. C'est le droit au logement, c'est quand même quelque chose. Surtout quand on voit tous ces chiffres où en fait des tas de gens qui travaillent, hein, qui arrivent pas à se loger. À Toulouse, c'est un problème aussi. C'est un problème dans toutes les grandes villes. C'est toujours un peu la même chose en fait, hein. L'exclusion elle se fait aussi par ça. Donc ma France à moi la mienne, c'est vrai qu'elle est plutôt remplie de gros bicylindres ventrus et bruyants, qui dérangent certainement, hein, qui dérangent les braves gens, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. On peut pas choisir. On peut pas choisir. Moi, j'ai choisi, malgré tout, j'ai choisi celle qui fait du bruit, celle qui sent pas très bon, c'est sûr, celle qui met du noir sous les ongles. Mais bon, voilà, c'est ma France à moi, et puis c'est celle de mes potes. C'est notre France à nous, hein, quelque part. Donc voilà, bientôt on va voter. On va voter ou on va pas voter, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est encore un autre problème. Hein. Moi, je sais que j'ai voté un jour. Oui, si, je vous le dis. Franchement, j'ai voté. J'ai voté pour un mec qui était de gauche. Ouais, un président de gauche. À ce jour-là, bah, j'ai découpé ma carte d'électeur et puis je m'en suis fait des filtres. Parce que franchement, j'ai compris que ces hommes de gauche étaient guère mieux que ceux de droite. Juste, peut-être... non, même pas. Je cherche, mais non, je trouve même pas. J'ai arrêté ce jour-là de voter. Bon, franchement, je pense que si la démocratie... Si la démocratie nous permettait d'avoir un monde meilleur, il y a longtemps que ce serait interdit. On n'aurait plus le droit de vote. Donc je me fais pas tellement d'illusions là-dessus. Mais bon, c'est pas très bien de dire ça. C'est bien. J'ai vu partout un grand mouvement de masse pour que les gens pour venir s'inscrire, là, surtout dans les derniers jours. On en entendait parler partout. À Toulouse, 190% d'inscrits en plus que à la dernière. Que pour les dernières élections, bon, c'est des chiffres impressionnants, c'est vrai que c'est bien. c'est bien que les gens votent, s'ils y croient. C'est ça qui est important. En fait, il faut y croire. Bon, voilà, moi je crois plutôt à mon gros bicylindre. Voilà, ça j'y crois. Ça, quand je l'entends, qui ronronne dans mon casque, j'y crois. Et puis quand je vois défiler les bandes blanches sur l'autoroute, bah, ça j'y crois aussi. Et je crois que en faisant ça, nous aussi on se fabrique notre France à nous. Elle n'a pas plus d'exclus qu'ailleurs. Elle en a même plutôt moins. On sait que les motards ont du cœur. Les motards, ils sont obligés d'avoir du cœur. Parce que souvent, justement, ils sont cassés. Je veux dire, des vieux motards. Moi, je ne suis pas un vieux motard, mais je ne suis pas non plus un jeune premier. Ça fait 20 piges que je roule sur des motos. Donc ça fait 20 piges que des fois je tombe, et puis je me fais réparer, et puis que j'arrive à repartir. Et puis c'est comme ça. Donc à force d'être cassé, je vois bien, je comprends bien la douleur. Mais je comprends bien aussi l'injustice, et il y en a plein partout dans cette France à nous là qui nous ont fait et qui n'est pas la nôtre. Et c'est justement parce que c'est pas la nôtre que quelque part je ne trouve pas ma place pour y mettre un bulletin de vote. Mais en même temps, c'est très focus parce que j'espère que les autres le feront. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aura au pouvoir ? Mais bon, ça ne changera pas qu'il y aura toujours des radars sur nos routes et que l'argent de ces radars finira dans la poche du cousin, du beau-frère ou de l'ami d'un politicard quelconque. Hein. Ça ne servira pas à refaire les infrastructures, ça ne servira pas à nous faire des routes meilleures, moins dangereuses pour nous motards, nous qui sommes vraiment rien du tout de la population. On veut croire qu'on a une grosse voix et qu'on se fait entendre, mais non. Tout au plus, on arrive à faire peur aux gens, c'est tout. Mais faire peur, ça n'a jamais rien fait d'avancer. Hein. La terreur, il y a plein de dictateurs qui ont essayé. Ça marche au début, mais assez vite, ça ne marche plus. Donc, bon, je dis ça, mais j'ai pas de solution. Hein. Personne n'en a. Enfin, moi, si, il y en a plein qui en ont des solutions, mais qui ne me correspondent pas, peut-être. Je ne sais pas si mon ami Michel m'a trouvé un titre. Oh oui, il m'a trouvé un titre. Cet homme est extraordinaire derrière ses manettes. Allez, on y va.
Bla 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 bla. À force de croquer, cracoter dans ma biscotte, il en tombe des miettes, un tas sur le sol. Elle en raffole, elle en raffole. Hey. À force de cloper, cracoter des clopes, il en tombe des cendriers en vrac sur le sol. Elle en raffole, elle en raffole, elle s'affole, elle devient folle quand elle voit que le tapis salon et que la moquette de la chambre s'encrasse, 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 s'encrasse. Elle me dit toujours pareil. Elle me dit
bla 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 bla.
C'était Eddy Lagouyatch. Alors là, Michel, tu nous as déniché quelque chose de super. Et c'est blablabla. Bla bla. Exactement ce que je fais depuis le début de cette émission, et ce que fait tout le monde, et ce que fait toute notre société, après tout. Elle marche là-dessus, hein. C'est tout du blablabla, bla bla, hein, parce que bon, on parle. Le soir, on refait le monde au bistrot. On fait tout ça, et puis à la fin, bah, c'est pareil. Hein, on rentre chez maman, et on rentre sous la couette, et puis le lendemain matin, on se lève pour aller gratter. Tout ça, c'est des blablabla. Bla bla. Bon, c'est les guidons de l'info, les 5 dernières minutes. Je porte un peu tout seul cette émission ce soir, et c'est quand même pas très 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 facile, je vous le dis, mais bon, voilà, c'est bien fait pour moi, ça m'apprendra. J'avais qu'à rester moi aussi sous ma couette à faire du blablabla. Bla bla bla. Non, c'est excellent. Eddy Lagouyatch, c'est vraiment excellent. C'est une petite prod, hein. C'est, en fait, ça a l'air d'être autoproduit. Vous pouvez aller voir sur son site, ce type a un site, ça s'appelle www, bon, ça vous en doutez, Eddy, donc Eddy comme Eddy avec 2D, hein. Eddy Lagouyatch, alors je vais quand même vous l'épeler parce que là c'est quand même extraordinaire. EDDYLAGOOYATSH Eddy Lagouyatch. Et sur son site, vous pouvez trouver en fait un clip qu'il a fait qui s'appelle L'amour et l'eau fraîche, et puis des extraits des chansons de son petit album. C'est vraiment super. Donc voilà, ouais, les dernières minutes de ces guidons, de première émission de l'année. Ouais. Donc je vais vous souhaiter bien sûr d'abord tous une bonne année quand même, hein, parce que. Faut qu'on soit méfiant, qu'on se laisse pas embrouiller justement par tous ces blablabla, mais qu'on reste éveillé, parce que vous savez bien que si on reste pas éveillé, personne ne le restera pour nous. Donc il faut qu'on soit vigilant, c'est tout, faut qu'on soit vigilant tout le temps. C'est un peu compliqué, je sais, mais c'est comme ça. Quand j'ai rencontré la petite femme avec laquelle je vis actuellement, que j'ai commencé à lui faire goûter aux deux roues, qu'elle ne pratiquait pas du tout, on commençait par une mobylette, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, le deux roues, il n'y a qu'une règle en fait. C'est toujours être vigilant. Mais en fait, il n'y a pas que le deux roues. La vie, c'est comme ça. La vie, il faut qu'on soit toujours vigilant parce que les autres ne le sont pas pour nous, quoi. Et puis voilà, ça marche comme ça. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pareil pour les politiciens, c'est pareil pour tout. Donc... première émission de l'année, donc tous mes voeux pour cette année, hein, quand même, qui se passera, avec donc plein de rebondissements, des élections, des trucs magiques, on va nous promettre encore des trucs extraordinaires, on les verra jamais, mais ce sera beau, on pourra y croire. Une année avec plein de bonnes routes, avec des routes avec des virages, avec des routes avec des lignes droites, avec des radars, mais après tout, il y en a quand même que à peine un quart qui nous prennent la plaque d'immatriculation. Donc aux autres, vous pouvez quand même leur faire un petit coucou en passant. C'est toujours sympathique pour ces pauvres fonctionnaires qui sont derrière des écrans à recevoir les photos. Ça leur fait toujours un petit plaisir. D'ailleurs, j'ai fait une petite dédicace à GG qui, la dernière fois, sur les allées de Brienne, a fait un très joli lever de sidecar au moment de la photo. Je pense que celle-là, ils vont la garder dans les annales parce que ça doit être assez super, un sidecar vide dessous. D'ailleurs, ce radar-là doit avoir une sacrée collection de motards. On doit tous être un peu dessus, hein, parce que quand même, enfin, je vois beaucoup de flashs à cet endroit-là. C'est assez extraordinaire. Donc, vous souhaitez une bonne année, vous dire d'être prudent parce que, comme je vous disais en début d'émission, quoi, voilà, la route, elle nous fait pas de cadeaux, hein. Nous on l'en fait pas non plus, donc c'est un peu c'est comme ça, quoi. C'est un truc sympa qui nous fait vibrer, mais c'est aussi un truc qui nous fait mal. Faut faire gaffe au bitume, il a des dents et puis elles sont un peu acérées, donc c'est à nous d'éviter les coups de croc. Et puis, prenez soin des gens qui vous entourent, de ceux que vous aimez bien, même de ceux que vous aimez pas parce qu'ils sont pas habitués, ça aussi c'est quelque chose de bien. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine sur les guidons. En plus, comme on est un peu en avance, on va même avoir le droit au générique en entier, avec le joli bruit du V11 sur le circuit du Vigan. Et voilà, à la semaine prochaine, bye.
Put on that dress.